Soyez les bienvenus, vous dont l'œil étincelle, pour entendre une histoire encore. Approchez, je vous dirai celle. Je vous dirai celle de la grenouille. Une nouvelle écrite et lue par Bernard Bonne. Je la devinais, énorme et sournoise, tapie derrière ses persiennes dans l'obscurité, et je savais aussi que, si je faisais un seul geste, si j'essayais d'une façon ou d'une autre d'entrer en contact avec elle, elle reculerait et disparaîtrait dans les profondeurs de son appartement. Quelques mètres nous séparaient, la largeur d'une rue, et ses fenêtres s'ouvraient juste en face des miennes. S'ouvrait, un bien grand mot. En réalité, elle restait toujours close et des persiennes les obstruaient, jour et nuit, été comme hiver. Il arrivait pourtant qu'on la surprenne. On apercevait alors sa bouche, ou ses yeux, ou son nez, dans la brève lueur tombée d'un réverbère ou d'un rayon de soleil, mais, dès qu'on avait découvert sa présence, elle se rétractait et fuyait, insondable et silencieuse, vers les profondeurs de sa tanière. Je l'avais surnommée la grenouille. Elle en avait la forme, l'apparente indolence qui se transformait en fulgurante vivacité dès qu'elle se sentait en danger, et elle en possédait aussi le côté énigmatique et fuyant. J'habitais en face de chez elle depuis déjà 6 mois, lorsque je découvris son existence. J'avais trouvé un poste temporaire à Toulouse et j'avais sauté sur l'occasion. La grisaille de la banlieue parisienne me pesait, et j'avais besoin de l'agitation d'une ville du sud pour repartir d'un bon pied. Au tout début, les événements me donnèrent raison. Mon nouveau travail me plaisait et me permettait de multiplier les rencontres. La ville bruissait de concerts et de spectacles, les bars répandaient toute la nuit leur énergie joyeuse, et les filles étaient jolies et pas compliquées. J'avais craint, à un moment, qu'il ne me soit difficile de trouver un endroit agréable où m'installer. Mais le premier appartement qu'on me proposa, tout près de la Garonne, me plut aussitôt. La rue, vivante et joyeuse, était sans cesse animée par la ronde d'innombrables vélos et par l'activité de multiples boutiques, bars et restaurants. Le quartier brassait une population venue du monde entier, asiatique, maghrébin, sud-américain. Sans parler d'une inattendue colonie turque dont les représentants siégeaient nombreux le dimanche matin près du kiosque à journaux. Grisé par cette atmosphère d'insouciance, je pense que je n'aurais jamais découvert l'existence de la grenouille si une nouvelle boutique ne s'était installée face aux fenêtres de ma cuisine. Les propriétaires et les ouvriers qui réaménageaient les lieux amenaient une excitation supplémentaire dans le quartier. Un soir, je me souviens qu'on était en juin, l'air était lourd du parfum des tilleuls et une douceur merveilleuse flottait sur la ville. Un soir, donc, un groupe formé de 5 ou 6 personnes discutait avec animation des ornements prévus pour l'enseigne de la boutique. Ils hésitaient, se contredisaient, revenaient sans cesse sur ce qu'ils avaient déjà décidé et haranguaient un malheureux peintre qui, armé d'une patience inébranlable, recommencer 10 fois le même travail et déplacer son échelle au hasard de leurs ordres et de leurs contre-ordres. Je m'amusais de cet inoffensif balai quand un malaise inattendu me saisit. Je me sentais observé et je devinais que le regard posé sur moi n'avait rien d'amical ni de chaleureux. Non, les yeux qui me fixaient étaient pleins de sournoiserie, semblables à ceux que le chasseur pose sur sa proie. Mon regard balaya la rue. En dehors des personnes qui s'affairaient devant la boutique, elle était déserte. Mes yeux parcoururent alors les fenêtres des immeubles qui me faisaient face, et je la vis à ce moment-là. Une forme sombre et molle, tapie, à contre-jour, derrière des persiennes, portée en ombre chinoise par la lueur palote d'une lampe qui semblait être le seul éclairage de la pièce où elle se tenait. Je sus, sans vraiment voir ses yeux, que nos regards se croisèrent. La forme se contracta, recula et alla se dissoudre dans l'obscurité. J'attendis, elle ne revint pas.
Shakuna Nita, Mama Balula Nita, Old Bamba Nita, he's on Jongere. Ashen Lady, Ashen Lady, give up your vows, give up your
Depuis combien de temps se tenait-elle là à m'espionner? Et pourquoi? Qui était-elle? D'autres que moi auraient vécu cette intrusion comme la simple manifestation d'un voyeurisme déplacé, et sans doute inoffensif. Certains l'auraient trouvé ridicule, tout simplement, et s'en seraient moqués. Pas moi. Mon enfance et mon passé m'avaient amené à craindre et à fuir le regard des inconnus. Je ne supportais pas qu'on entrât dans ma vie par une porte dérobée. J'étais, il faut le dire, hanté par le désir de contrôler tout ce qui pouvait m'arriver, désir impossible à satisfaire, certes, mais qui guidait la plupart de mes actes et de mes décisions. Le lendemain, j'allais dès la première heure à la fenêtre de la cuisine. La forme était là et, comme la veille, elle s'éloigna dès qu'elle sut que je l'observais. Je répétais l'expérience plusieurs fois, toujours avec le même résultat. Au bout d'une semaine, je résolus d'aller sonner à sa porte. Malgré plusieurs tentatives, personne ne répondit et aucun bruit ne monta des profondeurs de l'appartement. Rien d'étonnant à cela. Elle se tairait et refusait d'entrer en contact direct avec moi. J'essayais de savoir qui habitait là et j'allais questionner quelques voisins sur les paliers alentour. Mais mon manège fut vite suspect et quelqu'un menaça d'appeler la police si je continuais à troubler le calme de l'immeuble. Je battis donc en retraite, sans avoir pu parler à la grenouille. Contre toute attente, ce premier épisode passé, sa présence et ses regards me pesèrent beaucoup moins. J'installai des rideaux, et le voile qu'ils tendirent entre elle et moi me parurent aussitôt une protection suffisante. Puis, peu de temps après, je rencontrai Sonia, et tout le reste, dans ma vie, devint anecdotique. Sonia, je l'avais aperçue et observée à la dérobée depuis le pont le plus proche de mon appartement. Là, dans une large prairie qui bordait la Garonne, de nombreux jeunes gens, un peu étudiants, un peu zonards, venaient passer leur soirée et leur nuit. Ils faisaient de la musique, buvaient un peu, fumaient beaucoup. La police les laissait tranquilles. D'une certaine façon, ils étaient plutôt sages et ils connaissaient la règle absolue pour qu'on leur fiche la paix. Ne pas emmerder les bourgeois. Sonia déployait au milieu de cette faune insouciante sa silhouette ondoyante comme celle d'un lys et sa chevelure rousse accrochait une flamme dorée aux vertes bordures de la rivière. Elle vagabondait d'un groupe à l'autre, sans jamais vraiment s'arrêter quelque part, venait parfois traîner sur le pont pour demander des cigarettes aux passants et s'aventurait même, en quête d'un peu d'argent, jusqu'au café de ma rue, où elle chantait et faisait la manche dans les bars, accompagnée par un guitariste hirsute et crasseux. C'est là que nous fîmes connaissance, un jour où elle chanta « La vie en rose ». Comme je m'étonnais qu'une fille aussi jeune connaisse cette chanson, elle me répondit qu'elle aimait toutes les chansons, à condition qu'elle parle d'amour. Puis elle ajouta « D'ailleurs, c'est pour vous que je l'ai chantée. J'étais sûr qu'elle vous plairait. » « Vous m'aviez donc remarqué ?»« Oui, Je vous ai souvent vu sur le pont, en train de me regarder, et je vous ai reconnu. Eh bien, puisque vous m'avez offert une chanson, je peux vous offrir un verre. Pas de problème. Je refuse jamais un verre quand il est offert poliment.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. Et dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. La, 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 la.
C'est ainsi que Sonia, après avoir un temps rôdé aux frontières de ma vie, y entra tout à fait. 3 jours plus tard, elle se glissait dans mon lit. Une semaine de plus, et elle s'installait chez moi. J'étais à la fois effrayé et fou de bonheur de la vitesse à laquelle elle avait pris possession de moi, corps et âme. Jamais je n'aurais imaginé que ma vie puisse s'enflammer ainsi, comme de l'amadou. Elle me raconta qu'elle zonait plus par paresse que par obligation. Ses parents lui laissaient la bride sur le cou et se moquaient de savoir si elle était assidue ou non aux cours qu'elle suivait à l'université. Elle possédait d'ailleurs depuis des mois les acquis suffisants pour quitter la fac, mais elle n'en avait rien dit à sa famille et profitait ainsi de ses derniers mois de liberté et de désœuvrement. Pendant 3 semaines, notre bonheur flotta entre l'insouciance de la jeunesse et l'intensité du désir. Je l'abandonnais le matin, dans le parfum de nos étreintes, et je la retrouvais le soir, fraîche, souriante et parfumée. Nous traînions dans les bars, dans les boîtes, tantôt écoutant du jazz, tantôt du rock. Puis on rentrait, on se faisait 2 ou 3 cocktails bien serrés, puis la nuit, la vraie nuit, pouvait commencer. 3 semaines, pas un jour de plus. Un soir, à mon retour, je la trouvais prostrée au fond du lit, les draps rabattus sur sa tête. Je l'implorais de me dire ce qui arrivait. Au bout de longs silences entrecoupés de sanglots, Elle finit par bredouiller. Il y a là, en face, dans l'immeuble, une femme qui nous surveille tout le temps. Je crois qu'elle me veut du mal. La grenouille. Je l'avais oubliée. Je savais que Sonia aimait se promener dans l'appartement sans se soucier de tirer les rideaux. Elle avait fini par croiser le regard de la créature. Je me souvins de ma propre réaction lorsque je l'avais aperçue la première fois et je compris la terreur de Sonia. J'essayais, tant bien que mal, de la calmer. Les choses ne firent qu'empirer. « Quoi ? » s'exclama-t-elle. « Tu savais qu'elle était là ? Tu savais qu'elle nous regardait et tu n'as rien dit ?» Elle entra dans une rage incontrôlable et commença à me frapper. « Salopard ! Salopard ! Va te faire foutre !» Impossible de contenir la rage de Sonia. Elle me frappa plusieurs fois au visage et dans le ventre. Je n'arrivais pas à retenir ses mains, pas plus qu'à esquiver ses gifles et ses insultes. Mais je savais une chose, il ne fallait pas résister, il ne fallait pas répondre. J'attendis, donc. Les coups se transformèrent en cris, puis les cris en larmes. Au bout d'une heure, épuisé, le visage couvert de plaques rouges, les yeux entourés de lourds cernes noirs, elle tomba dans mes bras et me demanda « Pardon, longuement, pardon, pardon » répétait-elle. « Comme une toute petite fille, j'ai eu tellement peur. » Puis elle s'endormit, d'un coup. Je restai longtemps près d'elle et, quand elle se réveilla, je lui préparai un bol de thé noir et très fort, mélangé avec un peu de lait. Elle le but en silence, puis, levant vers moi, ses yeux encore luisants de larmes, elle me demanda « Tu vas nous en débarrasser, dis, s'il te plaît. Tu vas la faire partir ?» Je ne savais que lui dire, et, comme je craignais qu'elle ne se mît à nouveau en colère, je marmonnais un vague « oui, oui » qui n'était qu'un mensonge. Je vis, dans son regard, qu'elle ne me croyait pas, et, à partir de cet instant, tout changea entre nous.
Si seulement tu m'avais dit la vérité, nous ne serions pas sur le point de nous quitter. J'aurais toujours gardé au fond de moi l'amour que j'ai eu peur de perdre tant de fois et que l'on m'a volé. À présent tu peux t'en aller. Tu viennes vers moi un peu comme un enfant. M'avouer enfin, j'aurais compris. Mais puisque ce sont les autres qui me l'ont dit, moi je veux t'oublier. À présent tu peux t'en aller.
Le soir, quand je rentrais, elle ne se serrait plus dans mes bras. Elle déposait un rapide baiser sur mes lèvres, puis me demandait aussitôt de sortir, d'aller dans des bars, ou vers la prairie des filtres, où elle retrouvait ses amis. Nous y passions la moitié de la nuit et revenions dans l'appartement à demi saoul et lourd de cette fatigue poisseuse qui colle au basque des fêtards. Nos étreintes devinrent froides et mécaniques. Elles s'espacèrent de plus en plus jusqu'à devenir anecdotiques. Que faisait-elle de ces journées? Je n'en savais rien, mais aux œillades que je surpris deux ou trois fois entre elle et un de ses amis de Bohême, je compris qu'elle courait plusieurs amours à la fois. Ce lent glissement vers une séparation inéluctable me rendait fou de rage. Ma colère ne se voyait pas. J'avais appris à la cacher depuis longtemps, mais elle battait au fond de moi comme un tambour vaudou, sourd, régulier, puissant. Parfois, elle explosait en brutales convulsions. Il fallait alors que je parte vers les coteaux qui, vers le sud de la ville, bordent le fleuve. Et là, je courais pendant des heures comme un fou, comme un perdu, pour ensuite rentrer, le corps couvert de crasse, de boue et de sueur. La vie glissait ainsi vers l'enfer lorsqu'un soir, alors que j'avais trouvé l'appartement vide à mon retour du travail, elle revint vers 10 heures du soir. Elle portait une jolie robe rouge et s'était parfumée. « Je me suis faite belle pour toi. J'ai pas été gentille ces derniers temps. Je te demande pardon. » Mon cœur bondit dans ma poitrine. Je la retrouvai. Je la pris contre moi et nos corps glissèrent en silence vers le lit. Longtemps, j'observais son front, sa bouche, sa gorge. Je caressais avec lenteur sa nuque et ses cheveux. Elle ne bougeait pas. Les yeux fermés, elle laissait mes mains glisser sur elle et, de temps à autre, me répondait par un frisson. Puis je dégrafai les boutons de sa robe et mes lèvres commencèrent à s'aventurer entre ses seins et sur son ventre. Je devinai sous ma bouche la chaude palpitation de sa vie, et ce battement m'enivra aussi sûrement que de l'alcool. Je m'approchai de son sexe roux quand elle poussa un hurlement et me rejeta avec furie. « Regarde » cria-t-elle, « elle nous observe encore !» J'avais oublié de tirer les rideaux. La grenouille était là, massive, gluante et sombre. Le temps que je me lève pour aller aux fenêtres et tirer un voile entre le monstre et nous, Sonia s'était enfuie. J'entendis la porte de l'immeuble claquer, puis une course dans la rue, puis plus rien. Rien. Je revins à la fenêtre, l'ouvris, et criai des insultes vers la forme tapie de l'autre côté de la rue. Les passants jetèrent vers moi des regards malveillants. C'était étrange. La grenouille ne bougeait pas. D'habitude, quand elle me voyait, elle se cachait. Cette fois, non. Ça n'était trop. Ivre de rage. Je traversai la rue et montai chez elle. Je trouvai la porte ouverte. Comme un automate, je courus jusqu'à l'endroit où elle se tenait. Dans l'obscurité presque totale, je la vis enfin de près. Énorme, visqueuse, lourde de plis et de replis, calée dans un fauteuil roulant avec, sur les lèvres, un demi-sourire diabolique. Un couteau traîné sur la table de la cuisine, tout près d'elle, je m'en saisis et me mis à la frapper. À la frapper, à la frapper. Try to get my message to you. Quand je revins à moi, j'étais couvert de sang. Je portais des menottes et trois policiers me jetaient des regards de mépris et de dégoût. Je compris que l'un d'entre eux disait aux autres que je venais de me réveiller. Le plus gros des trois s'avança alors vers moi. « Je suis le lieutenant Muller. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Madame Brigitte Lanne. » Il se tut un instant et m'observa. « Vous m'avez compris ? Vous me comprenez ?»«
Oui, oui. Que s'est-il passé ?
Vous aviez bu ? Vous ne vous souvenez de rien ? » ?»«
Je ne sais pas. » »«
Vous lui avez porté plus de 20 coups de couteau. Et puis vous êtes tombé à côté d'elle. C'est sa fille qui vous a trouvé. Elle a eu peur. » Elle est allée chez les voisins et nous a appelés. Les voisins nous ont confirmé que vous aviez des problèmes avec Brigitte Lanne depuis longtemps.
Pas vraiment des problèmes, elle
m'espionnait sans arrêt, ça me rendait fou.
C'était pas une raison pour la tuer. Vous pouvez pas comprendre.
Ah, c'est sûr. D'autant plus que Madame Lanne était aveugle et sourde. Depuis 3 ans, elle a eu une attaque cérébrale. Depuis cette date, elle est invalide.
Avant, oui. C'était une femme brillante, une avocate.
Elle possédait tous les immeubles de la rue, même le vôtre.
Mais maintenant, la pauvre, enfin, Dieu ait son âme. Mes tempes se mirent à bourdonner.
Une douleur insoutenable broyait mon crâne.
Aveugle et sourde.
Et impotente, incapable de faire seule le moindre geste.
Mais je l'ai vue bouger dans son appartement.
Heureusement, elle avait sa fille. Elle venait la voir plusieurs fois par jour. Elle lui tenait compagnie et la nourrissait. Elle la lavait, l'habillait. J'aimerais avoir un enfant comme ça. Elle vint hériter de tout, mais elle ne l'a pas volé. Ça, non.
Elle avait une fille.
Oui, c'est elle qui vous a trouvé, je vous dis. Elle est là-bas, regardez. Derrière la vitre, au fond de la salle. Elle parle à un médecin.
Elle est tellement secouée. Je tournais ma tête, lentement, avec horreur.
Pourrais-je supporter de croiser le regard de cette femme ? Puis je la vis. Le rimmel avait coulé sur son visage. Sa chevelure rousse était décoiffée. Dans ses yeux se lisaient la terreur et le chagrin, mais Sonia n'avait pas quitté sa robe rouge.
Je la reconnus bien là. En parfaite comédienne, elle avait su choisir le costume parfait pour jouer la dernière scène.
Just came out of a storybook. She's got the favor no girls have. She's got the smile on her face. The lady with the red dress on. You know you really turned me on. You pretty lady with the red dress on. You know you really turned me on. Yeah. I never knew I could find my life. Oh baby, won't you come over and just step inside my parlor. Lady with the red dress on, you know you really turn me on. Yeah. The lady with the red dress on, you know you really turn me on. Yeah. That sweet perfume that you're wearing, smile upon my face, I keep staring. Back to you, baby. Let's get together and do it. The pretty lady with the red dress on. You know you really turn me on, yeah. The lady with the red dress on. You know you really turn me on, yeah. Yeah. I like the things you do. I like the shape you got. Catch me on the spot. I was looking at you. You look so good. When you came my way, I know we'll see the brighter day. You're so beautiful. You're
like an angel in the sky. Yeah, pretty lady with the red dress on. You know you really turn me on, yeah. You lady with the red dress on. You know you really turn me on, yeah. Come with me, step into my parlor. Let's get home and do some work. Come with me, baby. I like you to do everything for me. Come with me, I take you to ecstasy, girl. Come with me, I love you just the same. Come with me, baby, baby, baby. With the red dress on, lady with the red dress on. You know you really turn me on, yeah. Lady with the red dress on. You know you really turn me on. Oh!